Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et ça ne date pas d'hier, les équipes de l'IDRI ont déjà soufflé 20 bougies, 21 précisément, depuis la création de cette ruche qui dessine les contours de cette transition écologique indispensable dans toutes ses dimensions. Dans cet épisode, nous fêtons ces deux décennies de recherche et de transmission avec l'un des deux cofondateurs de l'IDRI, Michel Colombier, pour regarder dans le rétroviseur et faire le point sur le chemin parcouru, et puis projeter nos regards vers l'avenir. En route. Bonjour Michel Colombier.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de l'IDRI et cofondateur de l'Institut, donc, qui a vu le jour en 2001. Mais l'histoire commence avant, au cœur d'une grosse négociation, justement à Kyoto, au Japon, en décembre 1997. C'est la COP3. Et vous nous replongez dans le contexte de cette genèse. Qu'est-ce que vous y faisiez à Kyoto en 1997?
Alors à Kyoto, moi j'étais négociateur dans l'équipe de négociation française, un peu rajouté au dernier moment en fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde que ces sujets intéressaient, on n'était pas très organisé. Et donc au dernier moment, il fallait quelqu'un qui veuille bien s'occuper de sujets un peu exotiques comme les pays en développement, la bulle européenne, enfin des sujets comme ça. Et donc on m'avait proposé de rejoindre cette équipe de négociation. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Laurence Tubiana. J'en avais beaucoup entendu parler, mais on ne s'était jamais croisé. Et Laurence est arrivée en deuxième semaine comme chef de la délégation française.
Du gouvernement Jospin à l'époque.
Tout à fait. Hein. Tout à fait.
Et vous négociez donc ensemble. Et c'est en rentrant de Kyoto que vous vous dites qu'il manque quelque chose.
Alors en fait, en rentrant de Kyoto, Laurence m'a associé plusieurs fois à des petits groupes de réflexion sur le bilan qu'on tirait en termes de procédures de négociation, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, pourquoi, etc. Et donc c'est à partir de ce diagnostic finalement sur comment on avait pu se débrouiller à Kyoto qu'est née l'idée de la naissance de l'IDRI.
Vous vous sentiez moins bien armé par exemple que les Britanniques?
Alors,
les Anglo-Saxons.
Oui, c'est un constat. Laurence, elle avait plus d'expérience que moi, évidemment, dans ces négociations internationales. Elle avait été très impliquée aussi dans les négociations sur la biosécurité. Et en fait, son constat, c'était qu'on avait un chaînon manquant en France. On avait des scientifiques qui étaient extrêmement mobilisés. Donc, dans le petit groupe dont je parlais, par exemple, on avait Jean Jouzel, qui est devenu notre président ensuite. On avait Hervé Le Treut, Jean-Charles Ourcade. On avait une communauté scientifique très mobilisée. On avait aussi un corps diplomatique qui était très présent. Mais il y avait un chaînon manquant entre les deux, finalement, si on se comparait aux Anglo-Saxons, qui étaient très performants dans cette discussion, qui était celui des think tanks, c'est-à-dire des gens en fait, qui fassent ce lien entre, d'un côté, la connaissance scientifique, la mise en politique de la question scientifique, et qui participent à l'élaboration des idées en amont des négociations. C'est pas tout d'avoir des idées, de se préparer des idées comme ça entre soi. En fait, la négociation, c'est un vocabulaire. Donc, en fait, il y a un plateau de jeu qui doit être défini bien avant la négociation. Au moment de la négociation, on joue avec les cartes qu'on a. Et dans ces cartes, les nouvelles idées, les nouveaux concepts, etc., qui n'ont pas été épuisés auparavant dans des discussions de préparatoire, etc., n'ont pas droit de citer, en fait, ne fonctionnent pas. Donc toute la question était comment on prépare une négociation, beaucoup plus que comment on mène une négociation.
Et donc vous identifiez ensemble avec Laurence Tubiana ses besoins et vous réfléchissez avec 2-3 personnes, c'est ça?
Alors oui, il y a ce petit groupe-là parce que ben, c'est des gens qui ont participé à la négociation, donc qui ont été frappés par, je dirais un peu, par les manques ou les défauts ou l'inefficacité. On était allés en se disant on a des bonnes idées, mais bon, ben, difficile à faire passer. Et puis, assez rapidement, Laurence a aussi réussi à mobiliser un certain nombre de gens autour de l'idée d'un projet. C'est-à-dire qu'on est passé assez vite du diagnostic à l'idée d'un projet. Si on se dit finalement, on voit comment se débrouillent les Anglo-Saxons, les pays du nord de l'Europe, les Américains en particulier, etc., bah, il nous faut quelque chose du même genre. Donc on avait très vite passé en mode projet en disant quelles sont les conditions pour créer en France un think tank qui travaille sur les politiques globales d'environnement.
Et donc c'est en 2001 que ça se passe et c'est une toute petite structure au début, l'IDRI, créée avec l'administration du gouvernement Jospin.
Oui, la décision elle a été prise en fait à la fin du printemps 2001. Laurence avait réussi là-dessus à obtenir un soutien extrêmement important, en fait, qui était celui des grands instituts de recherche français. Donc, on avait Gérard Mégy qui présidait le CNRS, Marion Guillou qui dirigeait l'INRA, Bernard Bachelier, le CIRAD. Et les trois avaient dit, si ce projet avance, nous, on est partenaires, on est solidaires. Et donc, ça a vraiment aidé à convaincre l'administration Jospin d'apporter son soutien aussi. Et l'idée, c'était de démarrer très vite et de faire en parallèle, en fait, deux cheminements. Un qui a duré 5-6 ans à peu près, qui a été de passer du projet à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui était important pour notre statut international, je dirais, mais ça a pris très longtemps, et de dire on se donne les moyens de commencer très tôt à faire la preuve du concept. Donc on commence à travailler, même si on n'existe pas, quasiment on commence à travailler.
Et peu à peu, vous incluez tout le monde du développement durable, en fait, les sphères publiques et privées, les entreprises, les ONG, progressivement.
Voilà, en fait, au début, pour démarrer très vite, on avait fait ce qu'on appelle dans le jargon un groupement d'intérêt scientifique. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de structure juridique à proprement parler. On était hébergé par le CIRAD, et ça, c'était une structure totalement publique. Donc c'était gouvernement et institut de recherche. Mais le projet, dès le début, c'était de dire on veut faire un institut dans lequel l'ensemble des parties prenantes se retrouvent. C'était important pour deux raisons. C'était important d'abord pour garantir une forme d'indépendance de la pensée, d'avoir l'ensemble des acteurs, l'ensemble des intérêts qui soient présents autour de la table, et puis aussi d'ailleurs du point de vue du tour de table financier, finalement, ça avait cette importance-là. Mais c'était important aussi pour nous, pour essayer de faire progresser les idées, pas seulement dans un champ, je dirais, simplement diplomatique, mais à partir d'une compréhension de ce qu'étaient vraiment les enjeux de la transition réelle sur le terrain, des politiques publiques, la transformation des entreprises, le rôle des ONG, de la société civile, et de faire le lien entre ces questions-là et la façon dont on pouvait concevoir les négociations internationales.
Avec une démarche très collaborative, finalement, entre toutes les parties prenantes sur le développement durable.
Voilà, donc ouais. Ça nous a amené, en fait, le GIS, on a fait des statuts qui disaient d'ailleurs explicitement ce GIS existe pour 2 ans, et puis si au bout de 2 ans on n'a pas convaincu, l'expérience s'arrête. Et donc en fait on a pris 2 ans pour associer ces autres parties prenantes et créer avec elles une association qui ensuite est devenue une fondation avec des collectivités locales, les ONG présentes sur le terrain français, un certain nombre de grandes entreprises qui ont décidé d'accompagner le projet.
Et alors tous ensemble avec toutes ces parties prenantes, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce qui a été le marqueur de ce début de l'IDRI?
Alors, je dirais qu'il y a eu 3 choses. La première, c'est qu'évidemment, on a continué notre investissement dans la négociation internationale. Donc ça, on avait nos propres réseaux, on y était accueillis assez naturellement, finalement, parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Par contre, pour installer l'IDRI en tant que marque, on a notamment lancé 2 choses. Une qui a été de faire une grande prospective à l'horizon 2050, déjà sur qu'est-ce que signifie cette grande transition écologique, cette transition vers un monde, à l'époque, on ne disait pas bas carbone, enfin, c'était ça, qui est un exercice qui a associé pendant 4 ans pratiquement, l'ensemble des équipes de recherche qui étaient autour de l'IDRI et puis nos acteurs, en particulier les entreprises, autour de ce projet. Donc ça, c'était un projet vraiment fédérateur, je dirais, pour les membres constituant l'IDRI. Et vis-à-vis de l'extérieur, ce qui a peut-être été le plus marquant, ça a été, au bout de quelques années, l'organisation d'une grande conférence sur la question des pays émergents, notamment la Chine, mais l'Inde, le Brésil, etc., et la façon dont cette question reconfigurait finalement le multilatéralisme et les relations internationales, et que nous, on devait prendre évidemment cette question-là très au sérieux. Et là-dessus, l'IDRI était un peu précurseur, je dirais, pour poser cette question.
Il y a un virage peut-être dans l'histoire de l'IDRI, c'est le départ de Laurence Toubiana et l'arrivée de Teresa Ribera.
Alors oui, ça a été évidemment un grand virage pour nous, puisque c'était la fondatrice qui s'en allait, qui est partie préparer la négociation de la COP de Paris.
Avec Laurent Fabius.
Mmh. Du coup, c'est un virage qu'on avait un tout petit peu préparé quand même dans les années qui ont précédé. Et Teresa Ribera, on la connaissait.
C'est l'actuelle ministre de la Transition écologique en Espagne.
De la Transition écologique en Espagne. Elle était déjà à l'époque dans le gouvernement espagnol et on la connaissait parce qu'on avait mené un certain nombre de discussions au niveau européen sur les questions de mise en place de la transition écologique et de la négociation. Et donc c'était une amie, c'était une partenaire de l'IDRI déjà depuis quelques années. Et donc, c'était pas, je dirais, on ne confiait pas l'IDRI à des mains étrangères complètement. Voilà. Alors, cela dit, l'arrivée de Teresa Ribera, ça a été quelque chose aussi, je pense, de très rafraîchissant pour l'IDRI, parce que c'était une personnalité différente, avec une expérience politique que nous n'avions pas, nous, à l'origine. Et puis aussi, c'était très intéressant et important dans la préparation de Paris, des réseaux nouveaux. Beaucoup de réseaux, évidemment, au niveau européen, puisqu'elle avait été ministre et donc elle avait ses collègues européens, ce qui nous a été extrêmement utile, mais aussi un focus international différent, avec en particulier un réseau sur l'Amérique latine qu'on a beaucoup utilisé, beaucoup mobilisé pour la préparation de la COP21 et qui a été absolument fantastique.
Alors, la première équipe en 2001 se comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, l'IDRI, c'est une 40aine de personnes, dont 25 chercheurs. En quoi cet institut, aujourd'hui, ce think tank, est original et différent des autres ?
Je pense qu'il y a 2 choses qui, depuis le début, ont fait un peu l'originalité de l'IDRI et qui restent vraies, même si le paysage a énormément évolué. La première, c'est que l'IDRI, c'est un institut qui travaille sur l'ensemble des questions de développement durable, c'est-à-dire qu'on n'est pas un institut qui travaille sur le climat, ou un institut qui travaille sur la biodiversité, ou un institut qui travaille uniquement sur le développement, mais qu'on a associé toutes ces questions-là dans une certaine vision des réflexions au niveau multilatéral, international. Et Ça, c'est la deuxième spécificité aussi, toujours en lien avec la question des politiques publiques et des conditions réelles de la transition sur le terrain, dans les pays,
le rôle des acteurs, etc.
Voilà. Oui. Et ça, ça, depuis le début, notamment avec la présence des entreprises d'ailleurs, ça a été une marque de fabrique de l'IDRI qui nous a permis de nous installer, notamment sur la scène européenne, finalement, dans cette capacité à parler concrètement des transitions. Et on le voit aujourd'hui, je ne sais pas, dans notre programme agriculture, par exemple, c'est vraiment exactement le type de réflexion qu'on peut mener.
Il y a une soixantaine de jeunes chercheurs qui sont passés par l'IDRI à 20 ans. Est-ce que c'est important, cette dimension formatrice de l'Institut ?
Alors, c'est essentiel, je pense, pour nous. C'est essentiel pour deux raisons. Si on le prend du point de vue de l'Institut lui-même, tous ces gens-là, à chaque fois, c'est un sang neuf pour nous. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a une soixantaine de jeunes chercheurs, mais de tous horizons. Et énormément de gens qui viennent d'ailleurs, pas français, qui nous apportent une formation différente, un point de vue différent, etc. Donc ça, c'est extrêmement riche. Et comme l'Institut est petit, ben, pour avoir du sang neuf, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui s'en vont. Alors c'est toujours une séparation quand des gens s'en vont. Et en même temps, c'est une opportunité pour nous, parce qu'aujourd'hui, on a des anciens de l'IDRI un peu partout. On en a à la Banque mondiale, on en a dans les gouvernements, on en a dans le monde privé, etc. Et je dirais qu'il y a un mode de pensée IDRI qui se diffuse, finalement, ce qui est aussi peut-être un des objectifs d'un think tank.
Alors maintenant, on peut se projeter vers le futur. Et maintenant, quels sont les projets de l'IDRI ? Il y a une nouvelle direction depuis 2019 avec Sébastien Treillère. Vous vous projetez souvent vers l'avenir dans vos recherches. Quels sont les projets de toute l'équipe de l'IDRI ?
Alors, on a trois enjeux principaux aujourd'hui à l'IDRI. Le premier, c'est de se dire, aujourd'hui la vraie question, c'est la réussite de ces transitions. C'est-à-dire qu'on a passé 20 ans à tenter de les penser, à tenter d'organiser des cadres. Aujourd'hui, on est face à la mise en œuvre. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Et quelles sont les conditions sociales, les conditions économiques, la nature des politiques à mener, etc., pour réussir ces transitions, pour les mener à bien.
On entre dans le dur du sujet. Hein.
On entre dans le dur du sujet, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est passionnant et qui est intéressant, bien sûr. C'est ça aussi qui nous amène à prendre un peu de recul sur cette histoire de 20 ans. Et à prendre un peu de recul sur les conditions, je dirais, du travail qu'on a fait sur le multilatéralisme, sur finalement de quel cadre on a besoin. Est-ce qu'on a créé les bons cadres ? Est-ce qu'il faut les faire évoluer ? Comment on associe l'ensemble des acteurs à cette évolution du cadre multilatéral ? Vous savez qu'on a de belles réussites, comme l'accord de Paris, par exemple. Et en même temps, on est toujours face à une question d'un manque d'ambition. Et donc, il faut trouver comment faire fonctionner ces institutions ou les faire fonctionner différemment. Et enfin, on s'est dit, en lien avec ces deux questions-là, qu'on devait revenir en Europe. Alors, je dis revenir parce qu'on a été peut-être un peu plus présent au début de l'IDRI, puis c'est un terrain sur lequel on a été relativement peu présent pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas penser ces questions-là et penser leur mise en œuvre sans être beaucoup plus sur le terrain européen. La transition écologique, c'est certainement une chance pour l'Europe, du point de vue du projet européen lui-même. Et en tout cas, c'est à ce niveau-là aujourd'hui que l'essentiel des choses doivent se coordonner et se mettre en place.
Bon, en tout cas, les questions de développement durable et de transition écologique semblent enfin être vraiment au cœur du débat. On le disait, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes tous motivés pour les 20 prochaines années ?
Alors, c'est une question qu'il faudrait poser à chacun, chacune à l'intérieur de l'IDRI. Moi, j'ai le sentiment qu'on est une équipe qui est extrêmement motivée, qui est extrêmement mobilisée sur ces questions-là. Et je dirais que si je suis toujours là au bout de 20 ans, c'est surtout parce que cette équipe est motivée et que moi, ça me plaît toujours d'être au sein de l'équipe.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Colombier.
Merci.
Directeur scientifique et cofondateur de l'IDRI, il y a donc un peu plus de 20 ans. Fin de ce podcast de l'IDRI sous les cotillons colorés de cet anniversaire. Pour le réécouter et le partager, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast et le site de l'Institut, bien sûr. Vous pouvez envoyer vos remarques, vos suggestions sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.